À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Souleyman Bachir Diagne, je suis philosophe à Columbia University.
Quatrième épisode, enseigner aux États-Unis. Bonsoir Souleyman Bachir Diagne.
Bonsoir.
Pour ce quatrième temps, avec vous, j'aimerais que vous nous parliez de votre expérience américaine et de la façon dont vous avez développé les études africaines de Harvard à Columbia en passant par l'université Northwestern. On va commencer par votre première expérience, c'est le plus simple. Première expérience à la fin des années 70, en 1979 pour être précise, où vous avez passé un an à l'université de Harvard à Boston. Qu'est-ce que vous alliez y faire à ce moment-là?
On échangeait, il y avait un programme d'échange qui faisait qu'un étudiant de Harvard venait pendant un an à l'École normale supérieure et un normalien passait une année à Harvard. Voilà, j'avais eu envie à ce moment-là d'avoir une expérience américaine. Je venais de finir avec l'agrégation. Je m'engageais dans une thèse et au moment où je partais, j'avais décidé de travailler sur un sujet de logique et d'histoire des mathématiques. Et Harvard me semblait être le meilleur endroit pour cela. Harvard, c'était évidemment l'université où avait enseigné Quine. Je savais qu'il avait pris sa retraite, mais il y avait également Warren Goldfarb qui était en quelque sorte son successeur. Bref, c'était le bon endroit pour aller commencer une thèse sur l'algèbre de boules qui était mon projet à ce moment-là.
Et alors, qu'est-ce qu'un jeune Sénégalais de même pas 25 ans, passé par une grande école française, découvre en mettant son premier pied sur le sol américain? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a frappé? Ce que vous avez ressenti?
Le froid.
Ok, déjà.
Déjà ça. Et puis, j'ai été un petit peu perdu pendant les premiers jours. Quand je suis arrivé, je pensais que je savais l'anglais. J'avais étudié l'anglais depuis la sixième. Et puis, je l'avais étudié également en Cagne. Et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu perdu. C'était ma première expérience, au fond, de vie dans une langue qui n'était pas celle que je pratiquais. Et donc, les premiers jours, j'étais relativement perdu parce que je n'avais pas encore de lieu où dormir. J'ai été à l'hôtel... Parce que je devais tout régler au téléphone et quand vous n'êtes pas à l'aise avec la langue, le téléphone, ça ne va pas de soi. Et là, je me suis souvenu que dans ce programme d'échange, on nous mettait toujours en relation avec un host family, une famille d'accueil. Et quand j'ai appelé mon correspondant, que je me suis mis à bafouiller, que j'étais à l'hôtel, que je n'arrive pas à trouver un logement, etc., il m'a dit « Vous préférez peut-être que nous parlions français ?» Et là, j'ai respiré. Et très rapidement, les choses se sont mises en place et j'ai découvert que je savais plus l'anglais que je ne croyais. Et dès lors que j'étais décontracté, évidemment, l'anglais que j'avais appris pour faire des versions et des thèmes est devenu un anglais que j'utilisais pour m'exprimer et pour suivre des cours à Harvard.
Et donc là, vous avez passé un an?
Et là, j'ai passé un an.
Année académique, oui. Est-ce que cette année à Boston... reste comme un bon souvenir, rétrospectivement?
Alors, rétrospectivement, oui, c'est resté un bon souvenir, mais encore qu'au début, ça n'allait pas de soi. J'ai parlé, bon, ça c'était plutôt anecdotique, mes questions de chambre. Encore que, pas tellement si anecdotique, parce que je me souviens que quand je cherchais une chambre, et cette fois-ci avec l'aide de mon ami, celui qui est devenu un ami, Ralph Potter, c'était ma famille haute. Je me souviens avoir souvent entendu au bout du fil la personne à qui on demandait si elle avait toujours une chambre à louer, demander quel genre d'étudiant j'étais, etc. Et je me suis rendu compte que la question raciale était sous-jacente à ce genre d'interrogation. Et lorsque j'ai trouvé une chambre à Somerville, qui était pas loin de Cambridge, où se trouve Harvard, paradoxalement, ça a joué en ma faveur, parce que celle qui m'a loué une chambre à l'étage au-dessus de chez elle était une Africaine américaine. Donc, elle semblait être contente d'héberger un Africain. C'était un des aspects de mon séjour là-bas. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, aujourd'hui que j'y pense, je retrouve une phrase d'un philosophe que j'ai bien connu, un philosophe nigérian installé aux États-Unis, qui disait que c'est lorsqu'il est venu en Grande-Bretagne et aux États-Unis qu'il s'est rendu compte qu'il était noir. D'une certaine façon, la première fois où je me suis rendu compte que j'étais noir, c'est pendant cette première visite à Boston.
Ça s'était jamais passé avant.
On voulait me sentir moins noir,
oui.
Non.
Non.
Mais voilà, c'est là que j'ai rencontré la question. Quand par exemple, je vous parlais tout à l'heure de mon ami Ralph Potter. Ralph, qui était un professeur à la Divinity School de Harvard, qui était donc professeur d'éthique et qui était également professeur de philosophie en général et pasteur, avait marqué sur sa porte que sa porte était ouverte à toutes les personnes de quelque race que ces personnes ne soient. Je me suis dit, mais ça ne va pas de soi.
C'est bizarre de l'écrire.
C'est bizarre de l'écrire, mais ces choses-là ne vont pas toujours mieux sans dire. Et parfois, il faut les dire aussi.
Et puis, puisque vous évoquez cette question du racisme qui vous a touché directement, individuellement, dès votre arrivée, je crois qu'en 1979, c'est aussi une année où vous avez entendu parler d'un fait divers particulièrement atroce concernant des jeunes.
Absolument incroyable. Des jeunes. Alors, la ville de Boston était une ville extrêmement ségrégée. Les communautés vivaient de manière juxtaposée sans se mélanger. Par exemple, j'ai dû apprendre qu'il y avait certains quartiers où il valait mieux que je ne me promène pas trop. Et par quartier en particulier irlandais catholique très 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 fermé et très très raciste. Et justement, il y avait un match de football américain entre deux lycées, l'un dans un quartier noir, l'autre dans le quartier blanc. C'était le lycée noir qui devait rendre visite au lycée blanc. Et des jeunes qui étaient montés sur les toits qui surplombaient le terrain. Parmi eux, un a cru bon tirer une balle de revolver sur le meilleur joueur de l'équipe venu des quartiers noirs. Et ce garçon s'est trouvé paralysé pour le reste de sa vie. C'est devenu un grand problème dont les journaux américains ont beaucoup parlé, tellement c'était incroyable. Alors, ceci est arrivé quelques semaines, quelques jours même, je crois, après mon arrivée à Boston. Ça fait un choc de découvrir que ceci était possible.
Souleymane Bachir-Yann, ça fait 45 ans maintenant. Vous êtes installé aux États-Unis, donc il y a eu l'expérience de Boston, et puis vous y êtes retourné 20 ans plus tard pour enseigner à la Northwestern University, à Evanston, là on est dans la banlieue de Chicago, et puis en 2008 à l'Université de Columbia, à New York, donc vous connaissez en tous les cas un coin des États-Unis, à l'Est, mais... Est-ce que vous diriez, rétrospectivement, que les choses ont quand même changé ou, comme nous l'entendons de ce côté-ci de l'Atlantique, très régulièrement, trop régulièrement, non, la question raciale, et malgré le passage de Barack Obama à la présidence des États-Unis, la question raciale est encore le cœur du système américain qui pose problème et qu'il n'est pas du tout réglé.
Non, visiblement, elle n'est pas du tout réglée. Les choses vont infiniment mieux, je pense que...
Quand même, vous direz ça.
Voilà, je dirais cela. Je dirais que la ville de Boston est probablement moins divisée en des communautés étanches et tribalisées. C'est un fait sociologique réel. C'est aussi un fait que, de manière générale, la société est plus mélangée, les droits civiques se sont mis en place, etc. Mais... Tous les incidents dont nous parlons, toutes les tragédies qui souvent c'est le même schéma qui se répète, c'est-à-dire la police qui tue des jeunes noirs. Donc l'idée que le système de sécurité et le système judiciaire sont des systèmes structurellement racistes. Malheureusement, c'est une notion qui se vérifie parce que ces meurtres à répétition, il y a encore quelques jours, on le sait, 5 policiers noirs ont tabassé à mort un jeune noir.
On est en février 2023.
Effectivement. Eh bien, c'est intéressant d'ailleurs que ces policiers soient noirs parce que quand on dit que c'est la structure elle-même qui est raciste, ça veut dire qu'elle est relativement indépendante de la race de ceux qui perpètrent le crime et de ceux qui en souffrent, malheureusement. Parce que ces policiers noirs, c'est comme s'ils avaient intégré que tout naturellement, ils devaient protéger la cité de gens qui ressemblaient à ce jeune homme qu'ils ont tué. Ça veut dire que leur propre race n'avait plus aucune importance par rapport à cette structure raciste qu'ils avaient en quelque sorte intégrée et qu'ils avaient manifestée en arrêtant ce jeune homme et en le tabassant simplement parce que il avait grillé un feu. Je ne sais plus exactement quelle contravention il devait recevoir, mais c'était trois fois rien par rapport à la vie qu'il a perdue.
Là, je m'adresse à vous en tant que polyglotte, essentiellement, et que philosophe de la traduction, parce que je voudrais vous reprendre sur un mot que vous avez utilisé il y a un instant, deux fois d'ailleurs, qui était « quelle morasse ». C'est un mot en France avec lequel on a plus que du mal, c'est-à-dire que c'est un mot qui est condamné par les sciences aujourd'hui, qu'on n'utilise plus, en tous les cas, que dans... On refuse d'utiliser parce que on considère qu'il y a une seule race, qui est la race humaine, et une seule espèce, qui est l'espèce humaine. Est-ce qu'aux États-Unis, ce terme-là pose moins de problèmes, de telle sorte que vous pouvez l'utiliser, et on entend bien dans votre bouche, que nous pourrions considérer que c'est la couleur de la peau?
Oui, alors, c'est vrai que scientifiquement, il n'y a qu'une seule race. Éthiquement, il devrait également en être ainsi. Malheureusement, sur le plan social, il en est pas toujours ainsi. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que utiliser le mot race aux États-Unis pour caractériser, par exemple, des crimes, les hate crimes, les crimes de haine, sont des crimes en général de haine raciale et on dit des choses telles qu'elles sont. Disons que de ce point de vue-là, je dirais que les États-Unis sont moins hypocrites. Le mot race s'utilise puisque il a beau être une construction sociale, c'est une construction sociale. Et malheureusement, les constructions sociales, pour être des constructions sociales, n'en ont pas moins des effets réels et des effets dramatiques lorsqu'il s'agit précisément de racisme. Alors, nommer les choses, on peut, par exemple, très facilement faire des statistiques ethniques, comme on les appelle aux États-Unis, alors qu'en France, c'est interdit. Bon. On peut discuter la chose, mais effectivement, il est dans les mœurs américaines possible de parler de race, de parler de statistiques raciales beaucoup plus facilement et de manière plus nette et plus tranchée qu'ici.
Est-ce que ce sont des choses qui font partie de la réflexion, de l'enseignement autour du postcolonialisme ou du décolonialisme, de la façon dont on doit décoloniser les esprits, qui est une part, en tous les cas, une grande part aujourd'hui de votre enseignement?
Oui, alors c'est justement, ces notions de race sont très présentes dans ces questions postcoloniales, puisque on le sait, aujourd'hui aux États-Unis, il est probable que les élections à venir, et déjà des élections passées, vont se jouer aussi sur la notion de théorie critique de la race, critical race theory, comme cela s'appelle. Et c'est donc extrêmement présent. En effet, dans cette guerre politique qui, dans ces, justement, je parle de guerre politique.
Oui, j'allais vous arrêter.
Ce lapsus est révélateur. Les joutes ou les luttes politiques sont devenues des guerres culturelles, tournant autour de questions derrière lesquelles se profile en effet la race, le racisme, comme le fait que l'actuel gouverneur de Floride, Ron DeSantis, construit son personnage politique contre la théorie critique de la race. Et pour vous donner une anecdote qui m'a même, moi, beaucoup marqué, je faisais un cours l'année dernière, quand je faisais un cours sur l'existentialisme. Et à un moment donné, je parle de cette fameuse préface que Sartre a donnée à l'anthologie de la poésie noire et malgache d'expression française de Senghor. Et un doigt se lève, je donne la parole à l'étudiante qui demandait à prendre la parole et qui me dit, mais enfin, quelle idée pour ces poètes noirs de demander une préface à un homme blanc? C'était une question qui m'a totalement désarçonné parce qu'effectivement, c'est le genre de question que l'on peut poser dans une atmosphère comme celle-là où les identités semblent être importantes pour des tas de choses auxquelles on ne penserait pas, auxquelles personnellement je ne penserais pas, quant à moi. C'est aussi une question de génération, j'imagine. Il ne me serait jamais venu à l'idée de me demander pourquoi Senghor ou Aline Diop ou tous les auteurs de la négritude étaient allés voir Sartre pour lui demander une préface pour une anthologie comme celle-là.
Alors, deux questions. Est-ce que vous considérez que c'est nouveau? Et qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Alors, je lui ai répondu en expliquant qui était Sartre, pourquoi on avait pensé à lui pour une anthologie comme celle-là, pourquoi il était important qu'un homme de sa dimension et de la gauche, qui représentait une gauche, on ne disait pas à l'époque encore tiers-mondiste, une gauche anticoloniale, était la personne idéale pour faire une préface comme celle-là. J'expliquais aussi ce qui était important, me semblait-il, qu'il ne s'agissait pas simplement pour Sartre, par paternalisme, d'accorder sa signature et son blanc-signe, au fond, à une anthologie de poètes noirs, mais que lui-même estimait que dans la libération de chaque individu, il y allait de sa propre libération. C'est-à-dire qu'au fond, c'était son propre intérêt personnel aussi de s'engager dans un combat comme celui-là, qui lui semblait être un combat pour l'humain. Et que donc il ne s'agissait pas d'une signature condescendante, paternaliste, pour. Mais en réalité, la vraie réponse que j'aurais aimé pouvoir donner, c'était de dire mais ah bon, il était blanc. Parce que c'est la seule bonne réponse au fond à une question comme celle-là.
Vous êtes de toute façon, Souleymane Bachir Ndiagne, aujourd'hui, donc en 2023, au cœur de toutes ces questions. Vous avez utilisé le terme de guerre culturelle, mais de joute oratoire, mais aussi politique, évidemment, aussi bien aux États-Unis qu'en France, à vrai dire. C'est intéressant d'avoir votre double regard, d'ailleurs, parce que ces querelles sont aussi très virulentes en France, autour du concept d'universalisme, autour du mouvement woke, que les détracteurs de ce mouvement appellent wokisme en général, de l'évolution de l'enseignement, de la façon dont les étudiants changent, font évoluer les choses aussi, de part et d'autre de l'Atlantique. Comment vous positionnez-vous ? Je vous pose cette question alors même que je sais que vous avez écrit un livre. Là encore, vous n'hésitez pas à y aller. Vous oui. confrontez, on a parlé hier de ce livre que vous avez coécrit avec... Rémi Brague, autour des questions liées à l'islam. Il y a un autre livre de dialogue, de confrontation idéologique que vous avez écrit avec Jean-Louis Hamsel autour de questions africaines, de qu'est-ce que c'est qu'une philosophie africaine, qu'est-ce que c'est que l'universalisme, qu'est-ce que c'est que la pensée décoloniale. Ce livre s'appelle « Enquête d'Afrique », entre parenthèses S, « Universalisme et pensée décoloniale », sachant que Jean-Louis Hamsel vous avait accusé de culturalisme, d'essentialisme, sous couvert non pas d'assignation identitaire, mais de retour d'assignation identitaire sous couvert de votre universalisme à vous, pour le dire rapidement. Donc vous y allez. Mais comment est-ce qu'on peut tenir une position de surplomb, non pas en termes négatifs, parce que vous n'aimez pas les positions de surplomb, mais comment est-ce qu'on peut avoir un peu de distance, de recul, de profondeur d'analyse pour pas tomber d'un côté ou de l'autre ? Est-ce que c'est possible ça ?
Je crois que c'est possible, parce qu'en effet, il faut éviter la manière dont des questions comme celle-là, qui sont des questions importantes, des questions philosophiques, deviennent des questions politiques au sens où elles sont maltraitées avec des mots qui ne veulent rien dire, sans se balancer à la figure des accusations de wokisme. Le wokisme en soi ne veut rien dire. En revanche, et c'est d'ailleurs la signification du cours que je donne ici en ce moment, le séminaire que je donne à l'École normale, que j'ai intitulé « De l'universel ». En revanche, donc, dire que nous vivons une époque où l'universel ne va pas de soi. En tout cas, un certain universel ne va plus de soi. L'universel sans question qui serait représenté par l'Occident, qui aurait la mission de porter cet universel au reste du monde, cet universel-là a été remis en question par les décolonisations. Et la signification des décolonisations, c'est que le monde aujourd'hui est irréductiblement pluriel. Le monde ne se réduit pas à ce que l'Europe veut en faire. Le monde n'est plus façonné par l'Europe. Géopolitiquement, on s'en rend bien compte. L'idée de provincialisation de l'Europe, c'est même plus nécessaire. L'Europe est devenue une province du monde comme une autre province du monde, avec la montée d'autres puissances, la Chine, les BRICS, etc. etc.
Vous dites qu'on peut le déplorer, mais c'est un état de fait.
C'est un état de fait et cet état de fait va continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. Nous n'aurons plus un monde centré autour de l'Europe, avec le reste de la planète étant la périphérie de l'Europe. Bon. voilà le moment historique que nous vivons. Ce moment historique est devenu aussi un moment philosophique, c'est-à-dire que devient l'universel? Qu'en est-il de la question de l'universel? Est-ce que nous allons être dans une espèce de relativisme radical où les cultures dans leur multiplicité ne se justifieront que de leur contexte propre? On n'aura pas une humanité, mais une juxtaposition d'identités avec des identitarismes. Mon identité me tiendra lieu de politique. Ça expliquera comment je pense, et comment je vote, comment je me comporte dans le monde, etc.
Et même, c'est pas votre façon de voir les choses.
Non, c'est pas ma façon de voir les choses. C'est la façon de voir les choses, justement, à laquelle je m'oppose.
Absolument.
Parce que nous, à ce moment-là, nous avons que des ethnonationalismes où ce qui est vrai, même la vérité, va dépendre de la tribu à laquelle j'appartiens. Et donc, il s'agit, dans ce monde-là, d'éviter cela et de construire l'idée d'humanité, de construire, de réaliser ensemble notre humanité. Une expression que j'utilise souvent dans mon travail, c'est faire humanité ensemble. Et faire humanité ensemble, c'est la tâche qui est la nôtre aujourd'hui. Ce que cela signifie, c'est que la fin de l'universalisme, si on entend par là un universel impérial, ne doit pas être la fin de l'universel. Nous avons besoin de l'universel, ne serait-ce que parce que, en tant qu'humanité, nous sommes confrontés à des défis qui exigent de nous que nous répondions en tant qu'une seule et même humanité. C'est le cas de la crise sanitaire, dont beaucoup nous disent qu'elle va être suivie par d'autres de la même nature. Nous avons été attaqués par un virus pour qui nous sommes une seule et même humanité. Et c'est le cas également de la crise climatique. Ne serait-ce que pour ces raisons-là, l'universel doit s'imposer à nous. Et donc, voilà des questions, la manière dont il faut penser ces questions. Malheureusement, ces questions viennent dans le champ politique, il n'en est pas ainsi. Ça devient des outils qu'on embarque précisément dans nos tribalismes et dans nos ethnonationalismes. Donc, nous avons parlé du cas américain, de la guerre culturelle aux États-Unis, mais c'est la même chose en Europe. La montée des partis d'extrême droite qui souvent se sont construits uniquement sur des questions identitaires et de guerre culturelle. On m'aurait dit qu'en France, une campagne électorale utiliserait l'expression de grand remplacement. Il y a quelques années, c'était pour moi inimaginable. Or, il y a des partis qui ne se sont construits que sur ça. Allez leur demander leur programme économique, ils bafouillent. En revanche, parlez-leur des immigrés, ils deviennent d'une éloquence absolue lorsqu'il s'agit d'être contre l'islam, contre l'immigration, etc., etc. Et ça, c'est le type de monde où nous vivons. Et c'est le type de monde qui exige de nous que nous pensions éthiquement ce que signifie faire humanité ensemble.
Et ça, c'est la tâche du philosophe.
Oui, et il faut le faire philosophiquement, c'est-à-dire dans le dialogue. J'ai été très heureux d'avoir cette conversation avec Jean-Louis Hamsel. Et
je pense en descendant, oui, aussi, parfois dans l'arène politique aussi.
Mais oui, parce que c'est la meilleure manière de poser les problèmes. Le livre que nous avons coécrit, y compris sur les points très nombreux sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, permet d'avancer philosophiquement sur ces questions-là. Plutôt que de se jeter à la tête des noms d'oiseaux, il vaut mieux échanger des arguments parce que l'argumentation est une manière de montrer qu'il y a un espace public, que nous pouvons parler des langues différentes, mais tout en parlant le même langage. Et ce langage-là, c'est le langage d'un espace public qui sera un espace d'échange, un espace de dialogue, un espace d'argumentation, parce que précisément, la confrontation est celle des arguments et pas des identités. Si j'estime que j'ai une expérience singulière qui ne tient qu'à mon identité, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez me dire? Si vous n'avez pas la même identité que moi, si vous n'avez pas la même expérience identitaire que moi, vous n'allez pas avoir un discours qui s'adressera véritablement à moi. Il n'y aura plus d'argument parce que tout argument sera un argument ad hominem, comme on dit, qui ne tient qu'à l'identité. Je dis ce que je dis parce que je suis qui je suis. Et si vous ne partagez pas mon expérience, il n'y a aucun moyen pour qu'on s'entende.
Souleymane Bachardiane, dans cette redéfinition de l'universel et de l'universalisme, dans cette volonté de suivre plutôt un universel latéral, pour reprendre le concept Maurice Merleau-Ponty, Est-ce que la philosophie africaine, et je mets ça entre guillemets, parce que même ça, ça doit être discuté, est-ce qu'on parle d'une philosophie africaine ou de philosophie venue d'Afrique? Enfin, tout ça, c'est aussi des termes qui doivent être interrogés. Mais est-ce que ce développement d'une réflexion autour d'une philosophie africaine, pour le dire comme ça présentement, fait partie des questions, des thèmes de recherche, d'approche qui sont les vôtres?
Absolument. D'abord, un mot sur l'usage de cette expression philosophie africaine. Évidemment, une telle expression pose énormément de problèmes. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique? L'Afrique est non seulement sur le continent africain, mais elle est en dehors de l'Afrique, puisque c'est un continent qui existe aussi, qui vit dans sa diaspora. Première chose. Deuxième chose, la diversité du continent africain. C'est un continent, c'est pas un pays. Alors, cette expression, l'Afrique n'est pas un pays, est importante. Et vous avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure que le livre que nous avons coécrit, Jean-Louis Amsel et moi, parle d'Afrique en mettant un S entre parenthèses. Mais, en sachant tout cela, il faut aussi dire philosophie africaine au singulier. Pour la raison suivante, c'est que c'est une revendication. L'idée que la philosophie est tout naturellement européenne, qui est une construction du 19e siècle. Il n'en a pas toujours été ainsi. Les philosophes n'ont jamais pensé qu'ils étaient philosophes parce qu'ils étaient européens et que donc, hors de l'Europe, personne n'avait pensé philosophiquement. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que cette idée soit construite que la philosophie était l'essence propre de l'Europe, qu'elle ne pouvait être qu'européenne. Et c'est contre cette définition de la philosophie que un certain nombre de concepts font l'objet aujourd'hui de revendications pour être inscrits dans les programmes philosophiques.
C'est une étape de reconnaissance.
C'est une étape de reconnaissance. Donc dire la philosophie africaine, c'est demander qu'il lui soit fait une place dans les curricula. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'on comprend aux États-Unis le fait que la philosophie africaine et la Africana philosophy et était maintenant inscrit dans la liste des concepts de l'American Philosophical Association, l'association américaine de philosophie. Voilà une raison de dire la philosophie africaine, même si ensuite, quand on s'en occupe, évidemment, il faut rendre à ce concept toute sa complexité, l'interroger, le questionner, etc., de la manière que nous avons indiqué. Maintenant, plus précisément sur votre question, cette idée de faire humanité ensemble, et j'y reviens, cet humanisme dont notre époque a besoin. Notre époque a besoin de réinventer l'humanisme et de réinventer l'universel. Et d'ailleurs, réinventer l'universel, c'est le sous-titre de l'exposition qui en ce moment est au musée du Quai Branly.
Consacrée à Senghor, nous avons déjà parlé.
En effet, c'est important de réinventer cet universel. Et faire humanité ensemble, c'est la manière dont je traduis dans mon travail ce mot magnifique des langues bantoues qui est Ubuntu.
J'ai envie de vous arrêter là, Souleymane Bachir Diagne, et de laisser en l'air ce très beau mot d'Ubuntu que vous nous expliquerez demain, puisque demain, pour notre dernière émission, nous consacrerons ce temps à la réinvention de l'humanisme et de l'universel à votre façon.
Ce sera avec plaisir.
On reste sur l'Ubuntu?
Restons sur l'Ubuntu et mettons le mot comme ça en suspens.
En suspens.
Et écoutons sa musique.
À demain.
À demain, Caroline Brouet.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Martin Troadec, réalisation Charlotte Roux, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.